1, 2, 3, ça marche, vous m'entendez? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais saluer particulièrement les gens qui sont de passage ce matin. Soyez les bienvenus. Alors je vous propose, pendant qu'on lance la vidéo, je vous propose donc un texte dans 1 Corinthiens, ça ne va pas vous surprendre, mais c'est un texte qui est surprenant quand même. 1 Corinthiens 14, et 26 à 40, on va le lire juste après. Alors c'est un texte qui est assez surprenant, vous allez voir, il y en a qui vont se crisper quand on va le lire. C'est un texte qui termine une des grandes sections du livre, hein, la section du chapitre 11 au chapitre 14, où Paul aborde la question du rassemblement des croyants. Qu'est-ce qui se passe quand les croyants se réunissent? Et pour les Corinthiens, Paul parle de beaucoup d'exagération et on va en voir encore quelques-unes aujourd'hui. Alors je vous propose tout de suite de lire le texte. Que faire alors, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, deux ou trois, tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Si un autre qui assiste à une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous parler en prophète un par un pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans l'église, c'est là où vous vous crispez. Car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce bien à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Ainsi donc, mes frères, aspirez à parler en prophète, sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Ça va? Bon, si on lit ce texte un peu vite, hein, on pourrait croire que Paul veut interdire à la moitié des personnes de parler. Et on risque de retenir que cette chose-là, hein, parce qu'on a un petit peu la mémoire sélective. Je ne sais pas vous, en tout cas, moi, ça m'arrive. Donc, c'est une lecture qui serait beaucoup trop rapide. Et vous avez bien compris que certains l'ont faite et ça a duré pendant 20 siècles. Mais pas tout le monde. Et ce qu'on va voir, c'est que ce texte n'est pas du tout là pour dire ça. Oui, les femmes ont le droit de parole dans les rassemblements des chrétiens, que ce soit pour les réunions de travail, des groupes de maison, des cultes, des conseils, ou toute autre raison du rassemblement des croyants, les femmes et les hommes ont le droit de s'exprimer, de contribuer en parole et en acte. J'espère que je ne vous apprends rien. Là, on se décrispe. Alors, toute la question, c'est que faire des passages compliqués? Il y a plusieurs possibilités. On peut supprimer le passage, faire comme s'il n'existait pas. La deuxième possibilité, c'est de l'ignorer. Ça revient un petit peu au même. Troisième possibilité, c'est de modifier le passage. C'est-à-dire de dire non, il a écrit ça, mais ça veut dire autre chose. Et souvent, ça se passe quand on regarde qu'un mot, qu'une phrase, et qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. On fait un contresens. Et là, on modifie le passage. Et ce passage est un cas précis où on a fait des contresens et on s'en est servi pour réduire les femmes au silence à certaines époques. Et il nous reste la quatrième possibilité, parce que si nous croyons que toute la parole est inspirée, eh bien, ça nous demande d'aller au-delà de nos impressions, et puis c'est de comprendre le passage. Ça nécessite du temps, ça nécessite de se poser des bonnes questions. Qui écrit, à qui ça s'adresse? Quel est le contexte? Et là, on comprend ce qu'on veut dire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en détail de quoi parle ce texte, quel est son contenu. Paul commence lorsque vous vous assemblez, quand vous vous réunissez. Et voilà donc le thème de ce passage, c'est que Paul va parler de ce qui se passe quand les croyants se réunissent. Alors ce qu'on appelle communément le culte. Mais là, Paul, il ne parle pas du culte. Il dit en général, quand vous réunissez, c'est-à-dire ça concerne le culte, mais ça concerne aussi les groupes de maison, et à chaque fois qu'on se réunit. Et Paul va donner des principes qui vont être valables à chaque fois. Et là, le premier principe qu'il donne, c'est la fin du verset, c'est que tout soit constructif. Dans les traductions plus anciennes, où il y a des mots d'une autre époque, hein, du siècle passé, on trouve les mots édifiant, quelque chose qui construit, hein, qui édifie. Alors le but, c'est quoi? C'est de construire quoi? L'Église, la communauté de la foi, tout simplement. Et plus précisément, s'édifier, se construire les uns les autres, les uns par les autres. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le Nouveau Testament, il y a très peu de passages où il est dit comment, justement, nos cultes doivent être organisés. C'est un des rares passages qui existent. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de modèle particulier. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de consigne. C'est juste une liste de possibilités. Un chant, une instruction, c'est-à-dire un enseignement, un message, un sermon, une révélation. Alors ça englobe tout un tas de choses. Hein. Des prophéties, des images, un don de guérison, une parole de sagesse, etc. Que tout se fasse pour l'édification, que tout soit constructif. C'est le premier principe pour le culte. L'autre chose que Paul ne dit pas, c'est est-ce que ces choses-là, elles sont spontanées? C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, pendant le culte, au moment où on y est, que ça doit arriver? Ou est-ce que c'est préparé d'avance? C'est les deux. Les deux ont leur place. La grande liberté qui nous est donnée dans la Bible, c'est celle-là. C'est qu'il y a, à part ce texte et un ou deux autres, il n'y a rien qui nous dit comment le rassemblement des croyants, comment nos cultes, comment nos groupes de maison, etc., doivent être construits. Alors, si la liberté est donnée, c'est que ça nous appartient à nous, selon notre culture, selon notre époque, et bien de construire ce qui nous semble convenable, correct. Et au fil des siècles, dans l'histoire de l'Église, il y a eu tout un tas de choses différentes qui ont été faites. On comprend bien aussi qu'un groupe de maison ne va pas se dérouler de la même manière qu'un culte où on est 200 ou 250. Et on comprend aussi que le niveau de préparation va nécessiter d'être de plus en plus important et va augmenter en proportion avec la quantité de personnes. Parce que si on n'est pas préparé, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de l'impro, de l'improvisation. Et quand on improvise, tout peut arriver, le bon comme le moins bon. Et puis en général aussi, quand on improvise, on refait ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on devient un petit peu répétitif, on rabâche, on fait toujours les mêmes choses. Hein, comme ça, ça a parfois du bon, mais parfois la prédictibilité, c'est moins bon. Voilà. Alors il y en a qui disent, j'ouvre une petite parenthèse, il y en a qui disent, oui mais le spontané, c'est là où on est le plus inspiré. Ah, c'est une idée qui est très répandue, hein, mais qui est très bizarre aussi. Alors qui c'est, prenons une seconde, comparons les deux situations, qui c'est qui est le plus inspiré? Celui qui reçoit un truc et qui le dit brut de fonderie comme ça et qui ne prend pas le temps de réfléchir au poids des mots qu'il va utiliser, à la manière dont il va le dire, etc. Ou celui qui a reçu quelque chose, qui l'a préparé dans la prière, qui l'a maturé, qui a peut-être fait attention aux mots, aux images, etc. Qui va vérifier s'il n'est pas un petit peu borderline ou à côté de la plaque. Voilà. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur le fait que la préparation permet de mieux canaliser l'inspiration. Je ferme la parenthèse. Alors, on va passer à la suite. Le second principe que Paul donne, c'est que chacun et chacune est contributeur. Si tu peux revenir en arrière. Voilà. Chacun est contributeur. Chacun dans le culte a quelque chose à apporter, mais aussi quelque chose à recevoir. Tu participes par ta présence, mais aussi par ton écoute, par ton attention aux autres. Tu contribues avec ce que tu vas apporter, ta prière, ton témoignage, ta prophétie, ton chant si tu fais partie de l'orchestre, hein, ta prédication, ta préparation des différents moments, des annonces, etc. Chacun contribue. Mais tu contribues aussi par ce que tu vas recevoir, en écoutant ce que les autres apportent. Et c'est au travers de tout cela que tu vas écouter et rencontrer ton Dieu. Il y avait un vieux pasteur qui donnait cette image du culte. Pour lui, c'était comme un repas de famille, où le père de famille, le pater familias, qui invite tous ses enfants à table. Alors, il y a des fois un peu de pagaille, c'est pas toujours bien ordonné, etc. Hein, mais dans ce repas, chacun s'exprime et chacun profite de la présence du père qui est invité. Et puis peut-être au cours du repas, il y en a qui ont préparé des interventions. Il y en a qui va dire un poème, l'autre une histoire drôle, etc. L'autre va raconter à la famille réunie ce qu'il est en train de vivre, soit positivement, soit l'épreuve qu'il est en train de traverser. Alors il y a un troisième principe, et vous l'avez compris, on voit que Paul veut combattre le désordre et la désorganisation et l'excitation qu'il y a chez les chrétiens de Corinthe. Et ce qu'il cherche principalement, c'est de favoriser l'ordre et la paix. Il y a un mot qui n'existe pas dans la Bible, mais qui est intéressant, c'est la paisibilité, le fait de rendre paisibles les choses. Alors on a bien compris que les Corinthiens, ce n'étaient pas des endormis. Hein, c'est un peu des Méditerranéens. On voit que tout au long de la lettre, ils sont vraiment surexcités, tout feu, tout flamme, rien les échauffe et hop, ils partent, on les stimule facilement et ils s'agitent très facilement. Et l'excitation des Corinthiens dans tous les domaines qu'on voit dans la lettre, eh bien, elle se reflétait aussi dans le déroulement du culte. Au chapitre 11, Paul les fustige, il leur dit « Mais vous vous réunissez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et puis au chapitre 14, au début du chapitre, il intervient longuement sur le mauvais usage du parler en langue chez les Corinthiens. Ceux-ci en faisaient un signe de haute spiritualité et plus importante que tout le reste. Et Paul leur dit « Mais c'est bien, mais ça ne sert à rien, on ne comprend pas ce que vous dites. » Alors il les réoriente vers autre chose. Prophétiser. Donner un message de la part de Dieu. Celui qui prophétise, dit-il, édifie, construit toute la communauté. Et c'est ce que Paul recherche à faire. Alors on va, dans notre passage, on a vu, Paul cite trois cas particuliers que nous allons détailler ensuite. Alors je vais inventer des mots un peu, mais il y a les parleurs en langue, les prophétiseurs qui se coupent la parole, et les femmes qui parlent, qui parlent, qui parlent. Mais ici, le verset important, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de confusion ou de désordre, mais de paix. On pourrait dire de paisibilité. C'est le troisième principe que Paul donne pour les cultes et les rassemblements des croyants. Rechercher la paix, le climat, l'atmosphère du rassemblement est importante. Et c'est surtout, Paul, il est pas, c'est pas quelqu'un qui a peur du bruit ou du désordre, non. Ce qu'il dit, mais il faut que nos rassemblements ils ressemblent à celui qu'on vient adorer. C'est ça qui est le but. Paul, ça, c'est pas grave, le désordre de la confusion. Bon, ça n'a rien de constructif. Ça va être même contre-productif. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu aime être adoré. Dieu est présent, son peuple se rassemble autour de lui. Dieu est un Dieu d'ordre, de paix, de paisibilité. La manière dont se déroule le culte doit refléter et honorer les qualités de celui que nous célébrons. Alors Paul sait que les Corinthiens sont un peu durs de la feuille. Leur oreille est un peu encrassée. Et il est obligé de répéter les choses et de prendre à témoin ceux-là même qui ont besoin d'entendre. On le voit dans les derniers versets qu'on a lus, on va reprendre à partir du verset 36. On a même l'impression que Paul il se fâche un peu là. Est-ce de chez vous seul que la parole de Dieu est sortie? Est-ce qu'elle est parvenue qu'à vous? Il leur dit quoi? Je vais traduire en mots du XXIe siècle, et vous croyez que vous êtes les seuls, là ? C'est ça qu'il leur dit. Hein. Vous croyez les meilleurs. Pensez pas que vous avez reçu l'évangile parce que d'autres l'ont reçu avant vous. Hein. Ne croyez pas que tout ce que vous faites, ben c'est bien simplement parce que vous le faites. Au verset 37, si quelqu'un pense être un prophète ou un spirituel, hein, donc là on reconnaît les deux catégories que Paul vise, ceux qui pensaient qu'il fallait prophétiser à la mitraillette, ou ceux qui pensaient que parler en langue, c'était le summum, être le plus spirituel, hein, il les prend à rebrousse-poil, on va dire. Reconnaissez que ce que je vous dis, c'est-à-dire que Dieu est un Dieu d'ordre, qu'il faut l'adorer dans des cultes où il y a la paisibilité, reconnaissez que ça vient de Dieu, ce que je vous dis. Et que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc c'est la conclusion du passage. C'est facile pour un prédicateur quand le texte donne la conclusion. On a moins à se creuser la cervelle pour la trouver. Hein. Et c'est ce qu'il faudra retenir comme principe pour aujourd'hui, pour la bonne santé de notre Église. Alors voyons maintenant les trois cas particuliers que Paul donne en exemple et sur lesquels il intervient. Dans les trois cas de désordre, hein, ceux qui parlent en langue trop, ceux qui prophétisent trop, et les femmes qui parlent trop, Paul utilise la même consigne, le même remède dans les trois cas. C'est le verbe « taire » qui est utilisé au verset 28, 30 et 34. Pour Paul, dans les trois cas, pour l'église de Corinthe, le remède c'est de se taire, de rechercher le silence pour faire disparaître la confusion, le désordre, et faire réapparaître la paix, la paisibilité. Paul veut retrouver la bienséance, la convenance, l'harmonie dans les cultes à Corinthe. Alors passons en revue sur le truc d'après. Alors je ne sais pas si vous voyez, là pour ceux qui sont sur Internet, vous n'allez pas voir, mais on va parler des parleurs en langue qui se pensaient pour des êtres très spirituels. Et donc nous avons notre ami le chat qui dit « se taire, c'est pareil dans toutes les langues ». En lisant le début du chapitre 14, dans les cultes à Corinthe, on comprend qu'il y avait un grand bazar. Ils avaient instauré le concours du parler en langue. Celui qui parlerait le plus longtemps, le plus fort, ou je ne sais pas quoi. Celui qui couperait la parole aux autres gagne un point. Celui qui se montre plus spirituel que les autres gagne deux points. Et celui qui parle le plus en langue gagne trois points. Et le jeu démarre, et c'est la cacophonie. Donc les Corinthiens utilisaient à tort et à travers le parler en langue comme l'expression de leur plus haute spiritualité. Mais c'était des matu vu, c'est tout. Et comme personne ne comprenait le parler en langue, sauf s'il y a interprétation, ben Paul leur dit « ça ne sert pas à grand-chose, moi je préfère vous dire 5 paroles avec mon intelligence et la vôtre, plutôt que 10 000 paroles où personne ne comprendra rien. Ce n'est pas édifiant, ce n'est pas constructif. » Et donc Paul les oriente vers la prophétie, c'est plus utile. Alors chez nous, il n'y a pas de concours de parler en langue. C'est déjà un bon point. Mais on est tous confrontés à cette question. Comment je vais paraître spirituel ? Et on cherche tous des réponses différentes. Et Paul y répond aux Corinthiens, quelques chapitres avant. Il leur dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu ? Qu'as-tu que tu as reçu ? C'est-à-dire, il dit quoi ? Ta vie spirituelle, ce n'est pas toi qui l'as créée. Elle t'est donnée, tu l'as reçue. Alors ça marche dans les deux sens. Si quelqu'un se prend un petit peu trop super spirituel, ben, Paul lui dit, hé, tu y es pour rien. Ce que tu as reçu, tu l'as reçu. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Et dans l'autre sens, si quelqu'un se dit, ben, moi, ma vie spirituelle en ce moment, qu'as-tu que tu as reçu ? Reçois. Demande et tu reçois. On a été invité ce matin plusieurs fois à le faire. Alors le cas numéro 2. Les prophétiseurs en compétition. Alors ce qu'on comprend là en lisant ce passage, c'est qu'à Corinthe, donc ça devait vraiment être à la mitraillette. Hein. Paf, 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 paf. Et Paul leur dit, mais arrêtez. Vous vous coupez la parole. On n'entend pas ce que vous dites. Ça n'a rien de constructif. Que chacun ait le temps de donner ce qu'il a reçu. Premier point. Mais aussi que l'Église, les autres, aient le temps d'entendre et de recevoir. Le but, n'est pas qu'il y ait beaucoup de prophéties, mais c'est que chaque prophétie soit reçue, entendue, et qu'elle ait le temps d'atteindre la personne à qui elle est destinée. Si on tire à la chaîne, on fait du spectacle ou du sensationnel, mais on n'est plus à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Alors, ce n'est plus un culte, c'est la foire, la course à l'échalote, un étalage de prophéties. Donc Paul leur dit, taisez-vous, laissez le temps de l'imprégnation. Il leur explique aussi, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, mais moi, quand j'ai reçu ma prophétie, je ne peux pas faire autre chose que de la donner. Hein, bon. Il dit, mais calme-toi, les esprits sont soumis aux prophètes. On ne peut pas faire autrement, on est trop ému, on est bouleversé, on est excité. Calme-toi, reprends ton calme, sois maître de tes émotions. Quand tu prophétises, sois maître de ton timing, de ce que tu vas dire. Ne te laisse pas aller. N'imagine pas que ce que tu as reçu est tout d'un coup plus important que ce qui se vit en ce moment. Apprends à écouter l'autre. Ce n'est pas seulement participer en apportant, mais c'est participer en recevant la contribution de l'autre. Prends le temps de la recevoir. Alors vous noterez le verset 31, je le garde pour la fin, quand Paul dit « Vous pouvez tous prophétiser successivement ». On en reparlera. Alors, troisième cas. Alors, j'imagine qu'à Corinthe, les femmes devaient être aussi excitées que les hommes. Je ne sais pas pourquoi, elles le seraient moins. Hein, et donc, on comprend au travers de ce que dit Paul, c'est que les femmes posaient des questions. Et ça interrompait l'ordre du culte. Et c'était tellement fréquent que c'était gênant. Alors, imaginez un petit peu l'ensemble. On a les gens qui parlent en langue à tue-tête. On a les prophétiseurs qui se coupent la parole et on a un groupe de personnes qui posent des questions, parlent, etc. Mais quelle cacophonie ! Hein, Paul le dit quelques versets avant. Imaginez quelqu'un qui rentre chez vous pendant votre culte. Et il se dit, mais ils sont tous fous, ils sont tombés sur la tête, ils ne s'écoutent pas. Quel drôle de Dieu ils sont venus adorer ici. Et là encore, pour ce cas précis à Corinthe, de ces femmes qui avaient besoin de s'exprimer, de poser des questions, etc. La question, comme pour les deux autres cas, c'est ben, taisez-vous. Si vous avez quelque chose à dire et que ce n'est pas constructif, ben, ne le dites pas. Si vous avez une question à poser, ben, vous la poserez après le culte. Voilà. Mais dans le culte, ce n'est pas constructif. Comprenez bien que le but de Paul, c'est d'avoir des cultes qui sont constructifs et que l'ordre se passe dans l'ordre de la bienséance parce que sinon, on ne profite pas des uns et des autres et de ce que Dieu veut donner au travers des uns et des autres. Les femmes excitées de Corinthe devaient se taire comme les autres excités qui parlaient en langue ou ceux qui prophétisaient à la mitraillette. Alors, ces versets sont un peu polémiques parce qu'ils ont parfois été interprétés comme si Paul était un gros macho qui voulait imposer le silence absolu aux femmes, hein, une sorte d'interdiction formelle et universelle. Alors je vous propose qu'on détricote un petit peu plus ça ce matin. C'est la question de ce matin. Les femmes peuvent-elles parler dans l'Église ? Ah, vous connaissez Francis Blanche, hein, quand on posait la question, est-ce qu'il peut le faire ? Oui, il peut le faire. Alors, on a un gros problème, parce que Paul au chapitre 11 dit que les femmes peuvent prier et prophétiser dans l'Église, sous condition qu'elles aient un truc sur la tête, bon voilà, mais elles peuvent le faire. Et trois chapitres après, il écrit « Elles doivent se taire ». Alors, plusieurs possibilités. Soit Paul est un peu fatigué, doit partir au Club Med pour se reposer. Soit il nous fait un petit Alzheimer entre le chapitre 11 et le chapitre 14, mais on a un problème. Au chapitre 11, Paul dit « Quand vous vous assemblez, les femmes peuvent prier et prophétiser ». C'est-à-dire qu'elles peuvent prendre la parole en public pour donner leur prière ou prendre la parole en public pour donner leur prophétie, c'est-à-dire dire exactement ce qu'elles ont reçu de la part de Dieu. Hein, comme Paul dit, une prophétie, c'est quelque chose qui encourage, qui console, qui édifie. Voilà, donc on a un problème. Mais Paul, tu dis deux choses, tu dis le contraire à trois chapitres d'intervalle. Donc on comprend bien que Paul n'est pas en train de se contredire. Hein. Donc on comprend bien que dans ce cas précis où Paul demande aux femmes de Corinthe de se taire, c'était pour qu'elles arrêtent d'interrompre l'ordre du culte. Elles allaient pas, Paul ne leur disait pas de se taire quand elles priaient ou quand elles prophétisaient ou quand elles apportaient un chant ou quand elles apportaient un enseignement, etc. Alors il y en a qui disent « Non, mais ce n'est pas ça du tout, parce que le verset 35 dit bien qu'elles doivent se taire et demander à leur mari. » Ah ! Il y a plusieurs problèmes là. Le premier, excusez-moi messieurs, mais si les femmes devaient demander à leur mari un enseignement biblique, excusez-moi de mettre en doute, je ne veux pas vous dévaloriser, hein, je m'inclus dedans, mais stimulons-nous peut-être. Hein ? Est-ce qu'on serait capable ? Bon. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un truc qui serait inconsidérable de la part de Paul, c'est qu'il oublie toute une partie des femmes qui ne sont pas mariées. Et les femmes non mariées ont aussi le droit d'être enseignées. C'est-à-dire que toutes les femmes célibataires ou toutes les femmes veuves, et on sait qu'à cette époque-là, il y en avait encore plus qu'à notre époque, elles n'auraient pas le droit à l'enseignement. Ça ne tient pas debout. Le texte dit « si les femmes veulent apprendre ». Alors là encore, les gens ont dit, hein, les mots, c'est les mots de tous les jours, hein, si les femmes veulent apprendre quelque chose. Il n'est pas dit si elles veulent recevoir un enseignement, non, si elles veulent apprendre quelque chose. Et rien ne dit dans le contexte qu'il s'agit d'une instruction biblique particulière. Mais c'est potentiellement si elles veulent apprendre quelque chose sur que devient un tel, qu'est-ce qui est prévu à l'église la semaine prochaine, les nouvelles des uns et des autres, etc. quoi. Voilà. Et c'est ça que Paul dit, non mais arrêtez, taisez-vous, ce n'est pas le moment. Hein ? Tout ce qui trouble la paisibilité du culte, c'est non. Alors un autre point qui est très répandu dans les esprits et dans les pratiques, c'est que les femmes seraient interdites de prêcher et d'enseigner. Alors notre texte de ce matin, il n'en parle pas, mais je vais juste en dire un mot. Paul dit, les femmes peuvent prier, prophétiser. Donc prophétiser, c'est apporter un message de Dieu qui va édifier, encourager, consoler. Hein, on a vu, ce n'est pas forcément spontané, ça peut être préparé. La personne, elle peut recevoir quelque chose dans la semaine et puis le partager le dimanche au culte. C'est une forme d'enseignement. On voit que Paul dit, quand vous réunissez, verset 26, chacun apporte sa contribution. Il n'a pas dit que les messieurs. Il a dit chacun, tous et toutes. Hein, donc, on voit que dans ce texte, Paul dit, ben, hommes et femmes, indifféremment, vous pouvez apporter votre témoignage, votre enseignement, votre partage. Alors là où on a un gros problème, ce n'est pas dans ce texte. C'est dans le texte que quand Paul écrit à un Timothée, où Paul formule une interdiction précise en disant qu'il interdit aux femmes d'enseigner dans l'épître de 1 Timothée. Et ça, c'est un texte polémique aussi. Et il sera urgent de le comprendre. Mais ce n'est pas au programme de ce matin, parce que ce n'est pas dans notre texte. Donc ça sera pour une prochaine fois, si vous voulez bien. Mais on voit comment ce verset, en le sortant de son contexte, au lieu de suivre l'exemple de Paul qui nous dit que tout soit constructif, on s'en est servi comme une arme destructive. Alors pour finir sur ce sujet, comme je disais au tout début, oui, les femmes peuvent parler dans l'Église, oui, les femmes peuvent parler et apporter des messages de la part de Dieu, spontanés ou préparés, dans l'Église et aussi en dehors de l'Église. Je crois que dans les deux cas, c'est le besoin le plus pressant, c'est en dehors de l'Église. Alors pour vous encourager, mesdames, j'aurais terminé cette petite section en partageant ce verset du psaume 68 que vous connaissez. Les femmes, donc Dieu parle, et les femmes qui apportent la bonne nouvelle sont une puissante armée. Alors je vous pose la question ce matin. On a été encouragés par les paroles à se mettre en action. Mesdames, est-ce que vous voulez rentrer dans cette puissante armée ? Est-ce que vous voulez faire partie de celles qui portent la bonne nouvelle parce que Dieu a parlé ? Vous êtes appelés à ça. Alors, je reviens à notre texte pour formuler une synthèse et puis tirer des enseignements et des applications pratiques pour nous aujourd'hui. On va essayer de faire la transition entre Corinthe et Nîmes. Le culte, le principe, c'est que c'est constructif, participatif, paisible. Je reçois et j'apporte. Mais on peut se poser la question. Paul dit aux Corinthiens que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre culte. Et nous, dans nos cultes, où est-ce qu'on a besoin de progresser aussi? Alors, premier point, Paul invite les gens de l'église de Corinthe à se taire. Je ne sais pas, je ne vais pas faire parler Paul, hein, mais moi j'imagine que nous, il nous dirait ben, ça, c'est un peu le contraire qu'il faudrait faire chez vous. Ça y est, c'est bon. Hein, se taire, vous savez le faire. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez commencer à vous exprimer. Il y a nos amis de Madagascar. J'imagine que... Alors, je me réjouis qu'ils soient là et puis qu'on puisse voir les magnifiques produits là pour, qu'ils ont apportés pour soutenir l'œuvre à Madagascar. Mais j'ai vu un culte où il y avait beaucoup de malgaches. Je peux vous dire que c'est un petit peu plus animé que chez nous. Hein, voilà. Et je crois que là, on a à réfléchir là-dessus. Souvent, on est invité à prendre la parole dans nos cultes. Souvent, le conducteur de louange nous dit « Ben maintenant, c'est à vous. Et si on priait ensemble, hein, concernant la prophétie ?» Alors aujourd'hui, on a été gâtés. Merci Seigneur et merci à chacun et à chacune qui a osé partager ce qu'il avait reçu. Hein, mais on ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon quand même. Hein. En général, dans nos cultes, il y a 2-3 paroles. Ce matin, il y en a eu 7 ou 8, je ne sais pas compter, mais... Hein, là encore, écoutons Paul qui dit « Mais vous pouvez tous et toutes prophétiser, chacun à votre tour. » Et quelques versets avant, il dit « Imaginez un non-croyant qui vient parmi vous et tous vous donnez des prophéties et chaque non-croyant reçoit une parole de Dieu pour lui. » Et il se dit « Mais oui, Dieu est au milieu de ces gens. » C'est un peu bizarre, mais Dieu est au milieu de ces gens. Hein ? Nous pouvons tous et toutes prophétiser. Et là, je vois un grand axe de progression pour notre assemblée. Non seulement pour nos cultes, pour nos réunions maison, mais aussi quand on va dans la rue, comme Gérard nous disait, samedi prochain, bien sûr que les personnes au Jardin de la Fontaine, elles ont besoin d'entendre une parole de Dieu qui est adaptée à leur situation. Ben oui, on est là pour ça. Alors, point suivant, nos cultes sont paisibles. Grosso modo, il n'y a pas de groupe de personnes qui font du tintamarre ou qui entravent le déroulement. Hein. Des fois, il y a un bébé qui chouine. Bon, on se dit, bah, c'est un peu dommage parce qu'il y a une équipe qui s'engage à garder les bébés puis à les animer, tout ça. Donc, ce serait peut-être bien qu'il y ait une meilleure prise en compte là, de ce qui se passe à la bergerie. Mais globalement, ce n'est pas gênant. Alors, bien sûr, alors je me mets dans le lot parce que je suis souvent... un de ceux qui va me resservir en café. Mais souvent, au début du culte, il y a un petit groupe qui papote. Là. On se dit « Bonjour, c'est très sympathique, mais le culte a commencé. Hein, les chants sont partis. L'équipe de louanges, l'orchestre a déjà préparé quelque chose. Et puis, on rate le début. Oh, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Si on va être ensemble, à l'écoute des uns et des autres, à l'écoute de Dieu. » Il y a le retard du culte. Bon, on dit on commence à 10 heures, mais il y a toujours un quart d'heure ou 20 minutes. Hein, bon. Et puis il y a ceux qui arrivent à 10h20, ou à 10h30, ou à 10h35. Et puis, des fois, c'est des familles aussi, donc ils amènent leurs enfants. Alors les activités des enfants, elles ont commencé à 10h05, 10h10. Et puis à 10h30, paf, il y a trois enfants qui arrivent. Ça déstabilise un peu le groupe. Hein ? Mais ça veut dire quoi ? Que le début du culte n'est pas intéressant ? Je sais pas, je pose la question. Il y a ceux qui sortent fumer leur clope. Bon. Il y a ceux qui textotent. Alors maintenant, moi j'ai trouvé la parade. C'est qu'à un moment, je culpabilisais quand je prenais mon téléphone pendant le culte. Et puis je lui dis, mais non, tu es en train de chercher un verset de la Bible sur ton appli. Bon, ça va, ouf. Je m'en sors bien. Voilà, alors tous ces petits signes-là, ce n'est pas grand-chose en soi. Hein, on a juste chacun de nous à faire un petit effort peut-être pour être davantage tous ensemble, que ce soit constructif du début à la fin. Mais je crois que notre société, elle déteint un peu sur nous, et y compris sur notre manière de voir le culte. Hein, bon, il y a la société de consommation, c'est-à-dire qu'on apprend à consommer que ce que l'on aime, puisqu'on n'aime pas, bah, pff, hein, voilà. Il y a la zapette aussi. Hein. Je participe à un truc, oh, puis tout d'un coup, je zappe, je fais autre chose, je regarde mes mails. Voilà, mais du coup, on n'est plus ensemble. Du coup, la personne, eh ben, elle n'est plus dans sa participation active d'écoute où elle va recevoir des autres et de ce qui se passe. Alors, c'est vrai aussi, je vais peut-être dévoiler un truc, mais tant pis. Lors d'un récent conseil, on faisait en groupe la réflexion que nos cultes devaient être un petit peu revus pour être un peu moins figés, un peu moins prédictifs, hein, qu'on retrouve une plus grande dynamique, plus grande créativité. Bon, là, c'est un axe de progrès aussi. Alors, vous avez aussi entendu parler des cultes famille qui vont se mettre en place à partir de la rentrée. Donc, on aura le temps d'en reparler en septembre. Voilà. Il y a aussi un dernier point. C'est la saison des foot. Donc, il y a un grand risque à notre époque. C'est que le culte, ça soit le match de foot. Vous savez ce que c'est un match de foot ? Hein, il y a une vingtaine de gars surentraînés qui courent dans tous les sens. Et puis, il y a 100 ou 1000 ou 10 000 personnes qui sont confortablement assises dans leur canapé en train de boire une bière et de manger de la pizza, hein, qui se lèvent quand il y a un but pour crier, ou alors qui sont dans le stade et qui crient. Voilà. Attention que nos cultes ne deviennent pas des trucs comme ça, où on a des experts qui s'agitent là sur l'estrade ou je ne sais pas où, et puis les autres qui regardent le petit spectacle et qui se disent « Ah, ça c'était bien, ah, ça c'était moins bien ». Ce n'est pas à ça que Paul nous invite. Paul nous dit, et c'est ma conclusion, c'est quoi un culte réussi ? C'est un culte où tu participes par ta présence, parce que tu es là vraiment présent. Et Dieu nous l'a dit ce matin encore, est-ce que tu es présent ? Hein, dans les paroles prophétiques, est-ce que tu es présent ? Est-ce que tu es là ? Moi je suis là, dit Dieu, mais toi, est-ce que tu es là ? On participe par notre sourire. Je dis à ma femme, en général, en arrivant à la maison, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. Par ton bonjour, par ta contribution. Tu en as besoin, et les autres en ont besoin aussi. Ce que tu apportes aux autres, est-ce que tu reçois des autres ? C'est ce moyen-là que Dieu a choisi pour se montrer à toi aujourd'hui. Alors je vous propose de vous lever, puis on va terminer en priant. Seigneur notre Dieu, te remercions parce que tu es un Dieu de paix, de paisibilité. Tu cherches pas l'ordre pour l'ordre, mais tu cherches ce qui est constructif, ce qui va nous apporter. Et Seigneur, nous voulons progresser ensemble dans nos cultes, dans nos groupes de maison, dans toutes les réunions d'église, pour que ce soit constructif. Viens nous aider à améliorer ce qui a besoin d'être amélioré dans le domaine communautaire comme dans le domaine personnel. Fais de nous des disciples qui écoutent comme écoute un disciple. Viens éveiller notre oreille. Que nous soyons capables de capter ce que tu nous dis les uns par les autres. Te remercions aussi, Seigneur, dans la manière par laquelle tu te fais connaître à nous au travers du don de prophétie, et nous te prions que tu continues à multiplier ce don au milieu de nous, hommes et femmes, jeunes, personnes âgées, tous, que nous puissions recevoir ce don et que nous puissions vraiment devenir ce peuple de prophètes et de prophétesses dans l'Église et dans le monde. Amen.